Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 20 août 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Ici aux États-Unis, c'est la deuxième journée de la Convention démocrate. Ce soir, en tête d'affiche, le discours de l'ancien président Barack Obama qui viendra apporter son soutien à Kamala Harris. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu ce mardi des entretiens au Caire avec le président Abdel Fattah al-Sissi pour pousser à une trêve à Gaza. Au Kenya, la police a lancé mardi une vaste chasse à l'homme après l'évasion d'un tueur en série présumé soupçonné du meurtre de dizaines de femmes. Et dans notre partie magazine, la RDC espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie de Mpox. Cette maladie a déjà fait au moins 570 morts dans ce pays. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, c'est la deuxième journée de la Convention démocrate. Ce soir, en tête d'affiche, le discours de l'ancien président Barack Obama qui viendra apporter son soutien à Kamala Harris. Après une apparition surprise de la vice-présidente hier soir, Joe Biden a fait preuve d'un soutien sans équivoque pour Kamala Harris. Les précisions avec Dilly Dico.
Ce soir à Chicago, Barack Obama, 44e président des États-Unis, prendra la parole à la Convention démocrate pour renforcer le message d'unité et endosser officiellement la candidature de Kamala Harris pour la présidentielle du 5 novembre. Son épouse, Michelle, va également parler en faveur de la candidate démocrate, de même que l'époux de Kamala Harris, Doug Emhoff. Au programme de la soirée, des personnalités telles que le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. Hier soir, Joe Biden a fait le bilan de ses nombreux succès avec Kamala Harris et assuré que sa vice-présidente est le bon choix pour l'Amérique, car elle est une femme d'État respectée par les leaders du monde. Le président Biden, qui a encore 5 mois à la tête du pays, a expliqué que son travail n'est pas encore fini, mais les délégués et les intervenants ont salué son mandat. Dans le périmètre du centre de convention, la sécurité a été renforcée pour cette deuxième journée. Hier, des manifestants ont fait tomber les barricades autour du centre. Plusieurs arrestations ont été faites et les policiers ont repoussé les protestataires derrière les grilles. Ici, les délégués commencent à arriver en vue de la deuxième soirée.
L'un des fils du président de Guinée équatoriale, Ruslan Obiang Sou, a été jugé lundi à Malabo pour avoir illégalement vendu un avion de la compagnie aérienne nationale avec 18 ans de prison et une amende de près de 500 millions de francs CFA, soit plus de 750 000 euros requis contre lui. Les autorités ont ouvert une enquête en novembre 2022 après avoir constaté la disparition de l'appareil qui se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu ce mardi des entretiens au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour pousser à une trêve à Gaza avant de se rendre au Qatar. Les États-Unis accentuent la pression sur le Hamas pour accepter un compromis alors que le mouvement islamiste palestinien accuse les États-Unis de donner un feu vert à Israël pour poursuivre la guerre. Nani Talani.
Cette tournée d'Anthony Blinken dans la région vise à convaincre les belligérants dans la bande de Gaza d'accepter un cessez-le-feu assorti d'un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Venant de Tel Aviv, où il a rencontré hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef de la diplomatie américaine a rencontré à El Alamein son homologue Bader Abdelati et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Ce dernier a appelé à un cessez-le-feu à Gaza, mettant en garde contre une expansion régionale du conflit aux conséquences difficiles à imaginer, a indiqué la présidence égyptienne. Monsieur Blinken doit ensuite se rendre à Doha. Hier, en Israël, il a estimé qu'il s'agit peut-être de la dernière occasion de ramener les otages chez eux et d'obtenir une trêve. Il a affirmé que Benjamin Netanyahou lui avait confirmé qu'Israël acceptait le plan de compromis de Washington pour un cessez-le-feu, appelant le Hamas à faire de même. Le Hamas a déjà rejeté une nouvelle proposition de Washington en vue d'un accord. Il accuse Washington d'avoir intégré de nouvelles conditions d'Israël.
Le Parlement ukrainien a voté mardi en dernière lecture un projet de loi prévoyant l'interdiction de l'Église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou, souvent considéré comme un relais d'influence du Kremlin après 2 ans et demi d'invasion russe de l'Ukraine. Une décision historique selon des députés ukrainiens et aussitôt dénoncée par la Russie, mais qui est aussi largement symbolique, car sa mise en application risque de prendre des mois, voire des années. Une loi sur une autre indépendance spirituelle a été adoptée. C'est félicité sur les réseaux sociaux le président Volodymyr Zelensky qui est à l'origine de cette mesure. L'église concernée par cette décision était jadis la plus populaire en Ukraine, un pays dont la grande majorité des habitants sont orthodoxes. Mais elle a perdu ces dernières années de nombreux fidèles à mesure que le sentiment national ukrainien gagnait en popularité face à l'ex-puissance dominante russe. L'armée russe a revendiqué mardi la capture de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, présentée comme une importante plateforme logistique des troupes ukrainiennes. Cette ville est située à 6 km à vol d'oiseau au sud de celle largement détruite de Toretsk, qui est là également la cible d'une offensive russe depuis plusieurs semaines.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité africaine, un internaute célèbre au Bénin pour ses critiques acerbes contre le président Patrice Talon a été emprisonné mardi en attendant l'ouverture de son procès en octobre selon des sources judiciaires. Steve Amoussou, connu sous le pseudonyme de Frère Onvi, a été présenté mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou, puis déposé en prison pour provocation à la rébellion. Il n'est officiellement membre d'aucun parti politique. La police kényane a lancé mardi une vaste chasse à l'homme après l'évasion d'un tueur en série présumé soupçonné du meurtre de dizaines de femmes. Les précisions de John Lindon.
Collins Djoumaïsi, 33 ans, s'est évadé selon la police avec 12 autres personnes d'un commissariat de Nairobi. Il avait été arrêté le 15 juillet dans un bar de la capitale où il regardait l'Euro 2024 de football, quelques jours après la découverte de corps enfermés dans des sacs dans une décharge du bidonville de Mukuru dans le sud de Nairobi. Collins Djoumaïsi avait comparu vendredi devant un tribunal de Nairobi et avait vu sa détention prolongée dans l'attente de la clôture de l'enquête. L'évasion a été découverte mardi matin lors d'une visite de routine. La porte-parole de la police a laissé entendre qu'une opération majeure de sécurité est en cours pour retrouver le tueur, décrit par les autorités comme un tueur en série psychopathe et vampire.
Le monde en sait déjà beaucoup sur le Mpox.
Le Mpox n'est pas le nouveau Covid selon l'OMS. L'organisation invite les gouvernements européens à faire preuve d'un engagement politique fort pour l'éliminer tout en étant solidaire de l'Afrique. Davantage avec Alexandrine Hologno.
Le monde en sait déjà beaucoup sur le Mpox et l'on ne peut pas le considérer comme le nouveau Covid, a affirmé mardi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge. S'exprimant en liaison vidéo, Kluge a expliqué qu'il y a 2 ans, l'Europe avait maîtrisé le Mpox grâce à un engagement direct auprès des communautés les plus touchées. Il a insisté sur le fait que le risque de transmission de la variole à l'ensemble de la population était faible. La recrudescence du Mpox en RDC, portée par le clade 1B, qui touche aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, a incité l'OMS à décréter le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale. La RDC et d'autres pays africains commenceront à vacciner contre l'infection virale dans quelques jours, si tout est en place, a déclaré ce mardi le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. L'organisme annonce aussi que des discussions avaient déjà été entamées avec la société de biotechnologie danoise Bavarian Nordic, Bava CO, au sujet du transfert de technologie pour son vaccin contre le Mpox afin qu'il puisse être fabriqué en Afrique à l'avenir.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Sénégal a créé une commission d'experts pour renégocier dans le sens de l'intérêt national les contrats pétroliers, gaziers et miniers jugés défavorables afin qu'ils bénéficient davantage aux populations, a indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko. La commission est formée de hauts cadres de l'administration sénégalaise, des experts dans les domaines pétroliers, miniers, fiscal et économique. La Cour suprême du Kenya a suspendu ce mardi une décision de justice annulant une loi de finances adoptée l'an dernier et qui avait suscité des inquiétudes quant à la capacité du gouvernement, confronté à une importante dette, d'augmenter les recettes fiscales. La plus haute juridiction du pays veut ainsi maintenir la stabilité du budget avant une décision finale sur la question qui sera prise mi-septembre. Pour terminer, le roi du Maroc a décidé de gracier plus de 4800 agriculteurs faisant l'objet de poursuites ou condamnés dans des affaires de culture illégale du cannabis, a annoncé le ministère de la Justice hier. L'objectif de cette grâce est de permettre aux bénéficiaires de s'intégrer dans la nouvelle stratégie lancée après la légalisation partielle de la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis, selon l'ONU.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
En Italie, Kefrem Thuram et Timothy Weah absents au moins 10 jours avec la Juve.
Le milieu de terrain français et l'ailier américain seront indisponibles en raison de blessures contractées lundi durant la victoire de la Juventus Turin contre Com, 3-0, a annoncé ce mardi le club turinois. Les deux joueurs ont subi des examens après cette rencontre, comptant pour la première journée de la Serie A, qui ont révélé pour Thuram une lésion bénigne de l'ischio-jambier de la cuisse gauche et pour Weah une lésion bénigne de l'ischio-jambier de la cuisse droite. De nouveaux examens sont prévus pour les deux joueurs dans une dizaine de jours, précise le communiqué de la Juve. Le fils de George Weah a rejoint le club piémontais à l'été 2023, alors que le fils de Lilian Thuram et frère du joueur de l'Inter Milan Marcos Thuram a lui été recruté en juillet par la Juventus.
Le Tour a confirmé les progrès du cyclisme féminin.
Succès populaire, progrès au niveau sportif, émergence de nouveaux talents, scénario digne d'un thriller à la Hitchcock, mais moyens financiers encore limités. La troisième édition du Tour de France, depuis sa renaissance en 2022, a confirmé la progression du cyclisme féminin. En partant de Rotterdam, le succès populaire est garanti, avait prédit Marion Rousse au départ de la course lundi 12 août aux Pays-Bas. La première étape a rassemblé 150 000 spectateurs au bord des routes en direction de La Haye. Une réussite jamais démentie tout au long de la semaine. Les conditions d'encadrement ont également évolué. Désormais, la plupart des équipes ont un bus confortable comme les hommes.
Et les Jeux paralympiques à Paris, les forces de sécurité mobilisées.
Le ministre français de l'Intérieur a détaillé ce mardi le dispositif de sécurité mis en place pour les Jeux paralympiques de Paris. Jusqu'à 25 000 policiers et gendarmes mobilisés, 10 000 agents de sécurité privée. La sécurisation des délégations sensibles, dont Israël, sera assurée de la même manière que les Jeux olympiques, avec au total 27 athlètes, deux arbitres et le président du comité paralympique qui seront protégés en permanence. Le relais de la flamme qui débute en France le 25 août comptera 12 cortèges et traversera 33 départements français, a poursuivi le ministre. La cérémonie d'ouverture des Paralympiques aura lieu le 28 août, place de la Concorde, au cœur de Paris. Quelques 15 000 membres des forces de l'ordre seront engagés pour la cérémonie d'ouverture, avec en tout 35 000 spectateurs en tribune, place de la Concorde, dont près de 5 000 athlètes et 170 délégations olympiques et 15 000 places ouvertes au public en bas des Champs-Élysées. Pour ces Jeux organisés du 28 août au 8 septembre, 4 millions de spectateurs seront attendus, dont 10% d'étrangers.
Merci Eric. De nouveau avec vous, Rosine Onezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La RDC espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie de Mpox la semaine prochaine. Selon le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, la maladie a déjà fait au moins 570 morts depuis le début de l'année, enregistrant 16 700 cas. La RDC est le foyer et l'épicentre de l'épidémie dont la propagation du virus suscite une inquiétude croissante en Afrique et au-delà. Eric Manilakiza a joint à Goma, dans l'est de la RDC, Jean-Claude Nzei, spécialiste du soutien au programme de Chorus International.
Je suis présentement dans la ville de Goma. La situation, je dirais, ne s'est pas améliorée. Donc, du point de vue de la transmission, déjà dans les dernières 48 heures, nous avons enregistré une nouvelle zone de santé avec un cas confirmé de Mpox, donc une quatrième zone de santé dans la province du Nord Kivu. Et ce qui se passe en fait, c'est que nous vivons sur le terrain. Évidemment, il y a des acteurs humanitaires avec le gouvernement et les autres acteurs humanitaires. Le paquet que nous avons jusqu'à maintenant n'arrive pas à couvrir le besoin qui est ressenti dans la communauté. Et quant à ce qui concerne la population, il est difficile déjà d'emblée d'estimer, comment je vais dire, le mental au fait qui le caractérise, parce que comme vous le savez, la province du Nord Kivu est une province qui est touchée par que ce soit les inondations, les guerres, les catastrophes naturelles de l'autre côté, mais aussi les maladies. Donc il n'y a pas longtemps c'était Ebola. C'est là au fait que tu sens qu'il y a la perte qui s'installe, parce que on n'arrive pas à maîtriser les enjeux autour de la contamination elle-même. C'est rare et voire même difficile de trouver, par exemple, de points chauds de la ville de Goma en particulier, même les autres informations qu'on a eues d'autres territoires, d'apprendre qu'il y aurait, par exemple, la mise en pratique de mesures barrières pour, lutter contre la propagation de cette maladie, le lavage de mains, éviter, par exemple, le contact direct avec les uns et les autres. Et je sais que d'un côté, le gouvernement est en train de s'assurer que les gens, en fait, la communauté ou la population comprennent les dangers qui nous guettent. Et malheureusement, il est fort regrettable que dans les jours qui viennent, si la situation est maintenue telle qu'elle, nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous n'arrivons pas à gérer ou à limiter la propagation de cette maladie.
La RDC est supposée recevoir les premières doses de vaccin la semaine prochaine.
C'est une bonne nouvelle pour tout le pays, mais aussi les provinces affectées directement qui ont rapporté plus de cas de Mpox. Il est, par exemple, attendu une réunion au niveau national autour de l'OMS, autour du gouvernement, du secrétariat général du ministère de la Santé, des partenaires nationaux et internationaux qui travaillent en collaboration avec le gouvernement, pour s'assurer que le plan de communication et de vaccination de l'ensemble des populations de la République, en fait les populations directement affectées, que cette campagne, cette vaccination se passe dans tout ce qui est dit, parce que nous avons là environ 4 millions de personnes qui, éventuellement, dans les prochaines semaines, pourraient avoir accès à ces vaccins. Et donc, on espère que ces vaccins vont, d'une certaine façon, faciliter à lutter contre la propagation de ces virus dans les communautés qui sont directement affectées.
Jean-Claude Nzei, spécialiste du soutien au programme de Chorus International à Goma. Au Sénégal, les réseaux sociaux sont de plus en plus un terrain fertile pour les agro-influenceurs. Grâce à des vidéos qu'ils font pour promouvoir leurs activités sur les plateformes sociales, les jeunes entrepreneurs augmentent leurs gains en minimisant leurs coûts de production. Davantage avec Eric Manilakiza.
Accroupi à côté d'une pile de mangue fraîchement cueillie dans l'un de ses champs à Gadiaga, à une soixantaine de kilomètres de Dakar, l'agriculteur Mam Abdou Diop tourne une vidéo TikTok, espérant qu'elle fera un carton auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux.
Je faisais juste les vidéos par plaisir. Je ne savais même pas à quel impact ça avait les réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de clientèles venant de l'Europe surtout, qui via, même à distance, ils voient ce que je fais.
Depuis 2020, Mam Abdou Diop dirige une entreprise qui gère des parcelles de terre et cultive une gamme de produits. Il assure que ses bénéfices sont grimpés en flèche et sa clientèle a plus que doublé depuis qu'il a commencé à promouvoir son activité sur ses comptes TikTok et Instagram, où il compte respectivement environ 14 000 et 2 000 abonnés.
Grâce à les vidéos que j'ai faites, j'ai eu double ou triple clientèle qui sont venues de plus s'ajouter à ma clientèle fixe. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus, les réseaux sociaux. Donc c'est un très bon marketing parce qu'au début, moi, j'avais contacté d'un groupe qui faisait du marketing, mais bon, sans aucun impact.
La vente via les réseaux sociaux permet à Mam Abdou Diop de contourner les intermédiaires coûteux ou inefficaces et donc de réduire ses prix. Pape Ndiaye, vendeur de jus de fruits à Dakar, a connu Mam Abdou en parcourant son compte Instagram.
Et en scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication. Donc j'ai vu qu'il vendait des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était, donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais.
Formé en production agricole, Noga Essen, 27 ans, qui se décrit comme une agri-influenceuse, gère des champs pour une douzaine de clients. Sur Instagram, elle compte désormais plus de 3000 abonnés. Elle partage des vidéos dans lesquelles on la voit donner des conseils sur la façon de cultiver.
En général, les clients que j'accompagne, je les trouve au niveau des réseaux sociaux. Ils me contactent directement sur Instagram. Donc, je leur donne mon numéro. Après, je fais des visites au niveau de leur champ. Et maintenant, je les accompagne sur la production.
Le Sénégal importe près de 70% de sa nourriture, bien que 60% de la population travaille dans l'agriculture, selon le Fonds international de développement agricole. Le nouveau gouvernement a fait de la souveraineté alimentaire l'une de ses priorités.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Un mois après avoir annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat, le président Joe Biden s'est adressé à la Convention nationale démocrate lundi soir. Il a mis en exergue son héritage et a passé le flambeau à la vice-présidente Kamala Harris, nouvelle porte-étendard du parti. Le compte rendu de la chef du bureau de VOA à la Maison-Blanche, Patty Widakuswara, de la Convention nationale démocrate à Chicago. Récit Arzuma Compaoré.
Présenté par sa fille Ashley, le président Joe Biden a reçu un accueil de héros. À la Convention nationale démocrate à Chicago, Illinois, il a tenu sa promesse d'être un leader de transition.
Êtes-vous prêt à élire Kamala Harris et Tim Walz?
Et a donné son plein soutien à Kamala Harris, la nouvelle candidate présidentielle du parti pour l'élection de novembre.
Elle sera une présidente dont nos enfants pourront être fiers. Elle sera une présidente respectée par les dirigeants du monde entier, parce qu'elle l'est déjà. Elle sera une présidente dont nous pourrons tous être fiers. Et elle sera une présidente historique et marquera l'avenir de l'Amérique de son empreinte.
Biden n'a pas été contesté lors des primaires démocrates. Il y a à peine un mois, les quelques 4000 délégués ici s'apprêtaient à le nommer. Mais lundi, il a concilié son soutien à Kamala Harris et ses réalisations au pouvoir.
Le Covid ne contrôle plus nos vies. Nous sommes passés d'une crise économique à l'économie la plus forte du monde. Un record de 60 millions de nouveaux emplois. Une croissance record de petites entreprises. Un marché boursier au plus haut. Des plans d'épargne retraite record. Des salaires en hausse. Une inflation en baisse. Bien en baisse et qui continue de baisser.
Tout a commencé avec le débat contre l'ancien président Trump, candidat républicain fin juin. Biden, qui a 81 ans, dont la performance a été mauvaise, a vu son acuité mentale remise en question. Puis, une tentative d'assassinat contre Trump, qui a rallié les républicains et l'a poussé plus loin en tête dans les sondages. Pendant des semaines, Biden a insisté sur le fait qu'il resterait dans la course, même si les dirigeants du parti lui demandaient en privé de se retirer. Nous avons parlé à quelques délégués de la convention ici.
C'était un beau discours, c'était un grand discours, l'aboutissement de plusieurs années de service.
Son héritage est fort et positif, et ce soir, il a dit au public américain pourquoi il les aime, et c'est ce qu'il a fait pendant 50 ans pour servir notre nation. Et c'est un bilan incroyable.
Biden a répété le thème des démocrates, présentant Harris, une ancienne procureure, s'opposant à Trump, qui a été reconnue coupable par un tribunal.
Et la criminalité continuera de baisser quand nous mettons un procureur dans le bureau ovale au lieu d'un criminel condamné.
Biden a terminé son discours par une étreinte avec Harris, confortant son rôle parmi les démocrates qui voient en lui le leader qui pourrait peut-être sauver à nouveau le pays de Trump, cette fois en passant le flambeau.
Joe, merci pour votre leadership historique, pour votre vie de service à notre nation et pour tout ce que vous continuerez à faire. Nous vous sommes à jamais reconnaissants.
Restons aux États-Unis où les électeurs du comté de Northampton, dans l'état pivot de Pennsylvanie, ont choisi le vainqueur de toutes les élections présidentielles américaines depuis 1920, à l'exception de trois d'entre elles. Le correspondant national en chef de la VOA, Steve Herman, analyse les perspectives de la démocrate Kamala Harris et du républicain Donald Trump dans ce comté, souvent considéré comme un baromètre électoral. Le récit avec Michel Joseph.
Le comté de Northampton, en Pennsylvanie, s'est souvent retrouvé au cœur des révolutions industrielles des États-Unis, ainsi que des évolutions politiques. Sa ville, Easton, fait partie des trois endroits où la déclaration d'indépendance a été lue pour la première fois au public. Bethlehem, autrefois réputée pour sa puissance industrielle, est aujourd'hui une destination touristique prisée, accueillant des événements tels que le Music Fest, qui a attiré plus d'un million de visiteurs cette année. La ville et ses électeurs ont retrouvé le sourire, contrastant avec les années sombres d'il y a deux décennies, lorsque l'ancien titan industriel Bethlehem Steel a été dissous et vendu. Samuel Chen est stratège républicain au sein du Little Group.
La Chine est désormais active dans les secteurs de l'acier et ils veulent savoir ce que ses candidats vont faire pour ramener ses emplois ou pour reconstruire l'Amérique.
Le comté de Northampton a cette capacité singulière de choisir les vainqueurs des élections présidentielles, ayant choisi toutes les élections depuis 1920, sauf trois pour trois d'entre elles. Christopher Borick est professeur de sciences politiques au Muhlenberg College à Allentown, en Pennsylvanie.
Je pense que ce qui rend vraiment magique cette activité à prédire ce qui se passe tant au niveau de l'État qu'au niveau national, c'est sa diversité.
Dans cette diversité, on trouve des agriculteurs, des résidents des banlieues, des arrivants de New York et de Philadelphie, ainsi qu'une population hispanique en pleine croissance. Écoutons de nouveau Samuel Chen, stratège républicain.
Les républicains purs et durs et les démocrates purs et durs sont tellement égaux en nombre, avec un léger avantage pour les démocrates. Les petits pourcentages d'électeurs prêts à changer du camp vont décider de l'élection encore et encore et encore.
C'est pourquoi ce comté est connu sous le nom de Swing County USA, un endroit où une proportion significative d'électeurs partagent leur vote entre les partis et se concentrent sur les enjeux plutôt que sur les personnalités. Rachel Lowell, électrice du comté de Northampton.
Être président, c'est un travail. C'est pourquoi nous nous soucions davantage de savoir si le travail sera bien fait.
Cette jeune maman, Rachel Lowell, se préoccupe des droits des femmes et des politiques environnementales. Avec le comté de Northampton comme indicateur de l'actualité politique, les campagnes de Trump et de Harris continueront de se concentrer sur ce comté jusqu'au jour de l'élection.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro. C'était Rosine Munezero à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.